Pourquoi Afrique ? Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manilakiza à la présentation de cette édition du vendredi 21 mai 2021. Voici d'abord le sommaire. Arrêt des hostilités à Gaza et en Israël après l'entrée en vigueur d'une trêve la nuit dernière. La communauté internationale se réjouit et appelle à une solution durable à ce conflit. Au Tchad, la junte salue la décision de l'Union africaine sur la transition démocratique. Une série de réformes au Bénin pour faciliter l'amélioration du climat des affaires.
L'impact, c'est forcément que les investisseurs se sentent désormais plus à l'aise à pouvoir prendre des risques.
Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. La trêve entre le Hamas et Israël est entrée en vigueur à 2h locale à la suite d'efforts intenses des États-Unis et de l'Égypte principalement. L'armée israélienne a affirmé que ses avions de combat sont retournés à leur base et des milliers de Palestiniens ont célébré le cessez-le-feu à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Claire Morin-Gibourg.
Le cessez-le-feu a été annoncé hier soir après une réunion de sécurité du cabinet israélien dirigé par Benjamin Netanyahou qui a accepté à l'unanimité l'initiative égyptienne de cessez-le-feu bilatéral sans condition. Dans la foulée, le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a affirmé que la résistance palestinienne respectera cet accord aussi longtemps que l'occupation le respectera. Mais la situation reste volatile car de nouveaux affrontements ont éclaté ce vendredi entre des fidèles palestiniens et des policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam à Jérusalem-Est. C'est l'euphorie de la victoire annoncée devant les manifestants Khalil al-Ayya, un ténor du Hamas dans l'enclave de Gaza. Les habitants sont sortis inspecter les dégâts pendant que les secouristes recherchent toujours des survivants sous les décombres. Ils ont déjà retiré 5 dépouilles et une dizaine de survivants dans des tunnels souterrains qui ont été intensément bombardés par l'armée israélienne. 11 jours de violence ont fait au moins 243 morts du côté palestinien et 12 du côté israélien.
La communauté internationale s'est réjouie du cessez-le-feu entré en vigueur la nuit dernière entre Israël et le Hamas. Marius Muhunga.
Je suis convaincu que les Palestiniens et Israéliens méritent tout autant de vivre en sécurité et de jouir d'un même niveau de liberté, de prospérité et de démocratie, avait déclaré le président américain Joe Biden avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Heiko Maas, ministre allemand des Affaires étrangères, adresse un grand merci à l'Égypte pour sa médiation, affirmant qu'il est temps de s'attaquer aux causes profondes, rétablir la confiance et trouver une solution. La France demande que la trêve soit pérennisée. Une grande satisfaction pour Moscou, qui souligne un pas important, mais encore insuffisant. La Chine espère que les deux camps vont sérieusement respecter la trêve. Le mouvement du Hezbollah, chiite libanais, bête noire d'Israël, félicite le peuple palestinien héroïque et sa vaillante résistance pour la victoire historique. Bahreïn insiste sur l'importance de poursuivre les efforts pour résoudre le problème palestinien sur la base des solutions des deux États. Enfin, le pape François remercie Dieu tout en appelant les catholiques à prier pour que les Israéliens et les Palestiniens puissent trouver le chemin du dialogue et du pardon.
Depuis le 10 mai, 243 Palestiniens, dont 66 enfants, ont été tués selon les autorités sanitaires à Gaza. Plus de 1900 Palestiniens ont également été blessés. Environ 91 000 Gazaouis ont été déplacés selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Près de 1500 habitations ont été touchées par des frappes et 2 maisons complètement détruites selon le Hamas. L'agence de l'ONU pour l'aide aux réfugiés palestiniens a déclaré vendredi que sa priorité est d'identifier et d'aider les personnes privées d'abri dans l'enclave palestinienne. Du fait de roquettes lancées sur Israël par le Hamas, 12 personnes ont été tuées selon le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge. 357 personnes ont été blessées. Sur plus de 4070 roquettes lancées par le Hamas, 90% ont été interceptés par le système de défense antimissile israélien Dôme de fer, a rapporté l'armée. 2061 habitations et 1367 voitures touchées par ces roquettes dans le sud et le centre d'Israël. Maintenant, les armes se sont tues à Gaza et en Israël. C'est le quatrième cessez-le-feu depuis 2008. Quelles sont les garanties éventuelles de respect de cette toute dernière trêve? Rosine Munezero a joint à Washington DC Emine Baroudi, journaliste indépendant et spécialiste du Proche-Orient.
Écoutez, dans ce genre de situation, il n'y a pas de garantie formelle. La seule garantie, c'est que les deux parties sont convaincues que la continuation des actes hostiles ne peut plus rien leur apporter. Israël a bien exécuté son plan, elle a atteint ses objectifs, elle a détruit en grande partie le réseau souterrain de Gaza, elle a détruit deux grands immeubles à Gaza qui faisaient la fierté de Gaza et qui étaient le siège des médias. Donc, on l'a remarqué dans les quelques derniers jours des combats, il n'y avait vraiment plus beaucoup d'objectifs à atteindre.
Monsieur Netanyahou crie victoire, le Hamas crie victoire.
Les deux parties, enfin Hamas et Netanyahou, chacun a gagné à sa façon. Le Hamas a gagné une nouvelle légitimité, il a gagné sa place comme pouvant être celui qui peut tout changer dans l'échiquier du Moyen-Orient. Le Hamas, évidemment, les dernières opérations qu'il a effectuées, ont été effectuées sur l'ordre ou avec la coordination de l'Iran, parce que l'Iran a besoin de jouer des cartes maintenant dans ses négociations avec les États-Unis. Donc, oui, le Hamas a gagné. Il est toujours celui qui combat Israël, celui qui défend les Palestiniens, bien que ce ne soit pas vrai sur beaucoup de plans. Netanyahou, lui, a gagné comme étant le défenseur du peuple juif, du peuple d'Israël. Il a gagné comme, même s'il quitte le pouvoir maintenant qu'il ne fasse plus partie de la coalition gouvernementale prochaine, parce que vous savez, un gouvernement est en train d'être formé en Israël, il peut quitter sur un accent fort. Il a détruit Hamas, entre guillemets. Il les a remis au pas et il peut toujours se proclamer le dernier défenseur d'Israël.
Emine Baroudi, journaliste indépendant et spécialiste du Proche-Orient à Washington DC.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Tchad a salué la décision de l'Union africaine de ne pas sanctionner les nouvelles autorités mises en place par le Conseil militaire de transition. Nathalie Barge pour les détails.
Dans ses conclusions, l'Union africaine exige que les autorités militaires achèvent en 18 mois un processus de transition démocratique débouchant sur des élections libres, avertissant qu'aucune extension de cette période n'est acceptable. Réitérant son rejet de tout changement anticonstitutionnel, l'organisation panafricaine relève toutefois que le Tchad est confronté à des attaques graves et multiformes de rebelles venus de Libye et de terroristes de Boko Haram et du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, dans le bassin du lac Tchad. Saluant cette décision, le porte-parole du gouvernement, Abed Aram Koulamala, a annoncé la mise en place prochainement d'un forum inclusif sur les élections et la réconciliation nationale. La décision des dirigeants africains a été repoussée en raison de divergences entre partisans d'une suspension du Tchad et ceux optant pour l'accompagnement de la transition. Cette dernière option retenue a été rejetée par la plateforme citoyenne Wakitama qui dénonce la prise de pouvoir par les militaires.
Une personne a été tuée et plusieurs autres blessées dans des violences xénophobes visant la communauté nigérienne dans plusieurs quartiers d'Abidjan. Ces violences ont été provoquées par la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux, une fake news selon les autorités ivoiriennes. Des commerces ont été pillés et incendiés. Le procureur d'Abidjan, Richard Adou, a lancé une enquête pour retrouver les auteurs des violences et celles à l'origine de la diffusion de la fausse vidéo. Une vingtaine de personnes ont été interpellées, a précisé le procureur. La marche hebdomadaire du mouvement anti-régime du Irak a été à nouveau bloquée vendredi à Alger par un impressionnant dispositif policier à Alger. Depuis le matin, policiers en uniforme ou en civil ont envahi tous les endroits névralgiques de la ville, bloquant les grandes artères et encerclant les mosquées, d'où partent habituellement les cortèges de manifestants. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Nathalie Barge.
Les pays de la CEMAC qui ralentissent les négociations de nouveaux programmes avec le Fonds monétaire international sont appelés à accélérer, indique le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale. Le Tchad a obtenu un accord préalable au passage au conseil d'administration, mais les échanges au Cameroun et au Gabon en sont à un stade plus préliminaire selon le communiqué final de l'UMAC. L'Université de Douala et l'Agence universitaire de la francophonie ont signé une convention d'hébergement d'un centre pour emploi. Ce projet pilote au niveau mondial accompagnera les diplômés du supérieur sur le marché du travail. Un plan de formation complémentaire va être mis sur pied pour accroître la capacité des jeunes à trouver du travail ainsi que des programmes pour détecter les entrepreneurs. Le Luxembourg a revu à la hausse l'enveloppe pour la quatrième phase du programme indicatif de coopération au Niger, qui s'établit à 145 millions d'euros. Grâce à cette hausse de plus de 30 millions, un accent particulier sera mis sur la scolarisation des filles. L'objectif est également d'améliorer l'accès à l'eau potable et de développer une agriculture durable, a indiqué le gouvernement nigérien.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Ce vendredi est jour de repos pour les clubs participants à la Basketball Africa League qui se joue à Kigali au Rwanda. Les deuxièmes sorties de la phase de poule mercredi et jeudi ont été décisives. Dans le groupe A, les deux qualifiés pour les quarts sont connus. Il s'agit des Patriotes du Rwanda et des Tunisiens de l'US Monastir qui comptent désormais deux victoires en deux matchs après avoir disposé hier des Nigérians de Rivers Hoopers 99-70. Les deux qualifiés du groupe B sont aussi connus. Les Angolais de Petro de Luanda ont décroché leur billet en disposant hier des Camerounais de FAP sur le fil 66-64. FAP enchaîne ainsi avec une deuxième défaite après sa sortie manquée de justesse devant les Marocains de l'AS Salé. Eux aussi qualifiés pour les quarts après leur victoire 88-79 face aux Maliens de l'AS Police. Maliens et Camerounais s'affrontent dimanche pour tenter d'accrocher l'une des deux places de meilleure troisième qualificative pour les quarts. Dans le groupe C, la rencontre d'hier entre les Sénégalais de l'AS Douane et les Mozambicains du Ferroviário de Maputo a tourné à l'avantage des Mozambicains qui se sont relancés dans le tournoi. Les Zamalek, Ferroviário et l'AS Douane comptent chacun une victoire dans cette poule. Il faudra donc attendre les matchs de demain samedi entre l'AS Douane et le Zamalek et JSP et Ferroviário pour connaître les qualifiés de cette poule pour les quarts. Nous vous proposerons, dans la partie magazine de cette édition, une interview exclusive avec le président de la balle, Amadou Gallo Fall. Ici, en NBA, Joel Embiid est en lice pour le titre de meilleur joueur de la saison. Bagassi Koura.
Oui, le pivot camerounais de Philadelphie ainsi que l'intérieur serbe de Denver, Nikola Jokic, et le meneur américain de Golden State, Stephen Curry, sont les trois finalistes désignés par la NBA pour le trophée de MVP. Entendez, meilleur joueur de la saison régulière. Jokic a été au top sur tous les compartiments du jeu. 26,4 points en moyenne, 56,6% de réussite au tir, 10,8 rebonds et 8,3 passes. Joel Embiid de 28,5 points, 10,6 rebonds et 2,8 passes a été ralenti par des blessures à un genou et au dos, jouant 21 matchs de moins que le Serbe. Stephen Curry a lui été étincelant cette saison, finissant meilleur marqueur avec 32 points de moyenne, 5,8 passes et 5,5 rebonds.
Athlétisme, le triple sauteur américain Christian Taylor, double champion olympique en titre, s'est rompu un tendon d'Achille lors du meeting d'Ostrava. C'est ce qu'annonce sa compagne, de quoi le priver a priori des Jeux olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 9 août. Christian Taylor est détenteur de deux titres olympiques en 2012 et 2016 et de quatre titres mondiaux. Il détient aussi la deuxième meilleure performance de l'histoire du triple saut, 18m21. Un duel alléchant était attendu aux Jeux olympiques de Tokyo face au Burkinabé Hugo Fabrice Zango, vainqueur à Ostrava mercredi en République tchèque.
Merci à Kouba pour l'espoir.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. L'Union africaine a décidé de ne pas sanctionner les militaires au pouvoir au Tchad. L'organisation exige en revanche qu'ils achèvent en 18 mois un processus de transition démocratique débouchant sur des élections libres, justes et crédibles. Un conseil militaire de transition de 15 généraux présidé par Mahamat Idriss Déby a pris le pouvoir le 20 avril après la mort du président tchadien Idriss Déby Itno. Yacouba Ouédraogo a joint à Dakar, au Sénégal, Ibrahim Akane, analyste politique et spécialiste de l'Union africaine.
L'absence de condamnation est simplement liée à leur lecture de la situation politique et sécuritaire du Tchad, qui leur permet d'insister sur le fait que ce gouvernement a plus besoin d'être accompagné que d'être sanctionné. Et vous verrez que dans le texte lui-même, le paragraphe 4 est le plus important, parce que c'est ce paragraphe qui est consacré entièrement au travail qui devrait être fait.
De quel travail parlez-vous ?
C'est d'abord changer le texte qui organise la transition. Donc il faut le réaligner pour que, dit le texte, et je le cite, qu'elle reflète les aspirations et les intérêts collectifs de tous les Tchadiens à une véritable gouvernance démocratique dirigée par des civils et de servir le seul objectif de la transition. Donc vous voyez que malgré un peu la clémence à l'égard des militaires, il y a quand même des exigences qui sont très claires. Le texte ajoute qu'il y a la nécessité absolue que la transition vers un régime démocratique soit achevée dans un délai de 18 mois, à compter du 20 avril. Donc ce qui veut dire aussi que c'est inséré dans des délais qui sont très précis. La question qui se pose est de savoir comment l'Union africaine va pouvoir s'assurer du respect de ces délais. Parce que au Tchad, il y a de sérieux problèmes entre l'armée et la société civile, entre l'armée et la classe politique. Comment dans un contexte pareil, on peut travailler ensemble pour adopter une nouvelle constitution?
Le communiqué de l'Union africaine fait cas d'un gouvernement civil qui se consacrerait aux questions politiques et autres sur le pays et que le Conseil militaire de la transition se focaliserait uniquement sur les questions de défense et de sécurité du Tchad. Est-ce que c'est réaliste tout ça?
L'existence d'un gouvernement civil, l'existence d'un parlement composé entièrement de personnalités civiles va équilibrer le jeu des pouvoirs. Et ça, ça peut contribuer à faire avancer les causes. Parce que ce qu'il faut éviter dans le contexte tchadien, c'est que les militaires continuent de peser sur tout ce qui se fait.
Une bonne partie de l'opposition et de la société civile rejette la prise du pouvoir par les militaires. Pensez-vous qu'ils vont accepter d'intégrer ce Conseil national de transition-là?
Tout dépendra de comment on va rédiger le nouveau texte, quelle contribution la société civile et les partis politiques apporteront. Parce que si le document est élaboré avec leur assentiment et qu'ils savent que cette structure aura un minimum d'indépendance vis-à-vis de l'armée et du gouvernement, je pense que c'est dans leur intérêt que d'aller dans cette direction pour s'assurer que cette institution-là sera au service exclusif des Tchadiens et pourra être utilisé par les Tchadiens, société civile et partis politiques compris, pour vraiment amener le Tchad vers une transition qui aidera le pays à asseoir les bases d'un système plus démocratique que celui qui existait avant.
Ibrahim Akane, analyste politique et spécialiste de l'Union africaine, joint à Dakar, au Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Depuis 2018, le gouvernement du Bénin a initié une série de réformes qui visent à faciliter l'amélioration du climat des affaires. Cette politique intervient dans un contexte économique difficile marqué par la pandémie du Covid-19 et la fermeture des frontières avec le Nigeria voisin. Les précisions à travers ce magazine de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
De 13 000 en 2015, le nombre d'entreprises créées au Bénin est passé de 40 000 en 2020. Ces données qui émanent de la pièce, l'Agence pour la promotion des importations et des exportations sont le fruit des réformes engagées depuis quelques années pour améliorer le climat des affaires dans le pays. Une bonne nouvelle pour les chefs d'entreprises qui n'en pouvaient plus de certaines tracasseries.
La décision rendue en matière de petites créances est insusceptible de recours suspensif d'exécution parce que le tribunal statue en premier et dernier ressort.
L'impact, c'est forcément que les investisseurs ils se sentent désormais plus à l'aise à pouvoir prendre des risques. On va espérer que les hommes qui sont chargés d'appliquer ces procédures le fassent avec beaucoup de responsabilité.
Depuis le 17 février 2020, il est possible de créer son entreprise et d'effectuer toutes les formalités en ligne sans avoir à se déplacer à la pièce via la plateforme www.monentreprise.bg. Pour Robert Nouboulou, un chef d'entreprise qui évolue dans le domaine de la pisciculture. Avec ces réformes, les jeunes peuvent innover et réduire le taux de chômage.
Pour moi, il ne faut pas de grands moyens pour faire de grandes choses. Il ne s'agit pas de naître grand, mais il s'agit plutôt de commencer petit et de devenir grand.
L'autre secteur qui a reçu un coup de réforme est celui du foncier, marqué auparavant par des tests confus qui engendraient des expropriations. Pour les acquéreurs de parcelles, c'est déjà une bonne chose de vouloir réformer le secteur.
Cet horizon de plus en plus devenait confus et invivable. Ce que j'ai vu me donne l'assurance que nous progressons. Le foncier, c'est un grand facteur de développement.
Pour le ministre de l'Économie et des Finances, le gouvernement envisage aller au-delà pour qu'investir, créer de l'emploi au Bénin se passe dans de bonnes conditions. Romuald Ouadagne.
Quand on simplifie la vie d'un entrepreneur, quand on permet à tous les citoyens d'avoir une égalité de chance pour opérer, mais les gens investissent, ils créent de la richesse, ils emploient des travailleurs. Et quand ils font tout ça, le pays gagne. Et quand ils font tout ça, mais on gagne en impôts derrière. Vous voyez, depuis 2016, nous avons significativement augmenté le montant d'impôts que nous avons perçu, mais en baissant le nombre d'impôts, en simplifiant les choses. Nous avons repensé la fiscalité et sur certaines catégories, on a même baissé de 50%. Le taux de 10% passe à 5%. Dans un contexte où on simplifie les choses, ce qu'on ne supporte pas, c'est ceux qui ne veulent pas payer ce qu'ils doivent payer.
Le 1er juillet 2020, la Banque mondiale a annoncé que le Bénin quitte pour la première fois la catégorie des pays à faible revenu et rejoint le groupe des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou encore le Maroc. Une annonce qui a quelque peu irrité certains qui pensent que sur le plan social, le problème reste entier.
Nous avons faim. Si vous promettez à un peuple le changement des systèmes macroéconomiques, microéconomiques, c'est bon. Mais si ce même peuple n'a pas mangé, quelle que soit la qualité des réformes que vous opérez, le peuple va toujours crier.
De Cotonou, je n'ai plus à attendre pour VOA Afrique.
Ce vendredi est jour de repos pour les clubs participants à la Basketball Africa League qui se joue à Kigali au Rwanda. La compétition initiée par la NBA avec le soutien de la FIBA a commencé dimanche dernier et se poursuit jusqu'à la fin du mois. Quelle est l'importance de ce tournoi? Cheikh Thiero a joint à Kigali au Rwanda Amadou Galofal, président de la Basketball Africa League.
En fait, c'est symbolique parce que pour nous, l'objectif a été toujours d'essayer de bâtir une industrie autour de notre sport. Ce qui veut dire qu'au-delà des joueurs qui sont sur le terrain et des entraîneurs, il y a énormément d'autres métiers qui s'affairent autour du sport. C'est ce que nous voulons dire quand on parle de la Basketball Africa League comme un moteur de développement socio-économique en Afrique. Comme tu as pu le voir, l'histoire a été faite le 16 mars, le dimanche dernier. Il y a eu beaucoup d'émotions, je crois, dans les préparatifs, mais heureusement, tout s'est très bien passé avec une audience panafricaine et mondiale. Les matchs, comme tu le sais, sont retransmis dans 215 pays en 15 langues et dans tous les coins du monde. Et c'est l'objectif, c'est justement de partager cette expérience avec tous les fans de basket au monde et au-delà. Moi, je prends beaucoup de plaisir à m'asseoir ici auprès du terrain et puis de regarder 12 équipes différentes qui viennent de 12 pays différents avec un style de jeu différent. Je compte vraiment beaucoup de qualité technique, athlétique et physique. Ça se passe très bien. Il y a un très beau produit qui est en train de se de se construire.
Vous pensez que c'est un problème de recrutement pour l'équipe du Nigeria qui vient juste de perdre leur deuxième match contre l'équipe tunisienne après avoir été battue par l'équipe du Rwanda au premier match? Ou bien le point focal c'est sur les joueurs locaux là-bas de s'exposer pour la NBA?
Moi je suis persuadé que le Nigeria va rester un pôle fort, un des leaders dans le basketball en Afrique. Parce que même en dehors du talent qui est en Amérique et dans la NBA, il y a du talent dans le pays même. Alors je pense que ça a eu pêche, c'est que je crois savoir qu'il n'y a pas eu de championnat régulier. Depuis que cette équipe s'est qualifiée, je ne pense pas qu'ils jouent régulièrement et cela se voit. Je suis sûr qu'il peut montrer un bien meilleur visage, genre comme Ben Wuzo, qui est une des pièces maîtresses de leur équipe nationale, qui va aller aux Jeux Olympiques pour représenter l'Afrique. Et là, je pense que aussi bien garçons qu'en filles, ils sont classés premiers dans le basketball africain. Je suis sûr qu'à l'avenir, ça va venir. Pour le moment, nous sommes heureux d'avoir pu reconduire les 12 équipes qui étaient en liste en 2020 quand on devait commencer. Et maintenant, vivement la deuxième saison où on va tirer beaucoup de leçons et on va aussi améliorer beaucoup de choses. Je suis sûr que ce sera pareil avec les équipes aussi. Pareil aussi, nous espérons que la pandémie sera dans une différente phase qui pourra nous permettre peut-être de repartir sur notre format original qui était de jouer dans plusieurs pays. Mais pour le moment, on ne se plaint pas du tout. Kigali Arena est une infrastructure fantastique et je pense qu'on ne pourrait pas trouver mieux en Afrique. Cette saison inaugurale dans une ville qui est au Rwanda.
Amadou Galofal, président de la Basketball Africa League, joint à Kigali au Rwanda.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le cyclisme burkinabé se portait bien malgré la modestie des moyens. Les coureurs burkinabés ont régulièrement de la compétition et dominent les tours cyclistes dans la sous-région et s'affirment positivement sur l'échiquier africain, ce qui, du vélo, la discipline la plus populaire au Faso. De notre correspondant à Ouagadougou, Kader Traoré.
Le cyclisme est l'une des disciplines sportives qui fait la fierté du Burkina. Aussi bien au plan national que continental, les coureurs du Faso animent les courses à l'intérieur du pays, mais aussi à l'international, en témoignent les nombreux trophées remportés dans la sous-région et même au-delà. Sur les tours du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, les étalons cyclistes règnent partout. C'est ce qui fait du au premier responsable de cette discipline, Ignace Amédé Beroudou, que le vélo a du vent à Poupo Faso.
Le cyclisme burkinabé va très bien. C'est bien vrai que c'est demi-saison, c'est un peu timide. Et vu déjà les résultats qu'on fait, vraiment, c'est pas mal.
Étant donné que le pays est par essence un pays de vélo, il va sans dire que le cyclisme est la discipline sportive la plus populaire.
C'est un sport plus que populaire, c'est pratiquement en termes de pratique, le premier sport plus que nous tous on est cycliste.
André Dominique Nana, ministre des Sports et des Loisirs.
C'est une des fédérations qui fonctionne très bien au plan africain, qui participe aux compétitions qui nous permettent parfois d'avoir des lauriers. Tout dernièrement, en Égypte, on a eu une médaille d'or dans la course contre la montre avec Paul Domon. Donc, c'est en tout cas une discipline qui nous apporte beaucoup de satisfaction.
Cependant, ces résultats cachent tout de même l'envers du décor. Malgré la tenue régulière du Tour du Faso, l'un des tours cyclistes les plus renommés sur le continent depuis plus de 30 ans, il n'y a pas d'école de formation de la petite reine au Burkina. Laurent Bezo est le représentant pour la zone Afrique de l'Ouest de l'Union Cycliste Internationale.
Il n'y a pas de centre de formation, mais il y a des clubs qui fonctionnent. Et ça c'est important parce que c'est la base. Si vous n'avez pas de club qui fonctionne, le reste ne peut pas fonctionner, puisque les clubs, ce sont eux qui vont détecter, former les jeunes coureurs à la pratique du cyclisme et en faire des champions, ceux qui après vont se retrouver en équipe nationale et aller les disputer des épreuves au niveau international. C'est vrai qu'il n'y a pas de centre de formation en tant que tel, mais il suffirait qu'il y ait une vraie volonté politique pour le faire.
En entendant donc cet engagement politique, les cyclistes burkinabés vivent dans une certaine réalité souvent difficile. Paul Domon est l'un des meilleurs coureurs burkinabés du moment.
Mais la difficulté peut être matérielle, c'est-à-dire toujours avoir le meilleur matériel pour pouvoir rivaliser au haut niveau et aussi le niveau de vie des athlètes. À travers peut-être des primes ou des salaires qui seraient un peu plus conséquents pour que les gens puissent correctement s'alimenter, se soigner, manger du vélo.
Qu'à cela ne tienne, l'avenir du cyclisme au Burkina s'annonce prometteur. Paul Domon est l'une des valeurs sûres.
Je pense qu'il y a de l'avenir parce qu'il y a une génération derrière. C'était la question que l'on pouvait se poser l'année passée à cause de la pandémie mondiale. Et l'on voit bien que malgré les difficultés, qu'elles soient financières ou physiques, les coureurs et l'ensemble des dirigeants ont quand même cette volonté de bien faire.
Les moyens sont certes minimes, mais la motivation est sans faille. Kader Traoré à Ouagadougou pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Restez branchés sur voaafrique.com sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr.